France Inter.
Bonjour et soyez les bienvenus sur France Inter. Et si nous faisions entrer l'alimentation dans le champ des droits fondamentaux ? En 2021, en France, plus de 8 millions de personnes dépendaient de l'aide alimentaire. Et cela ne concerne pas seulement les personnes les plus démunies. On parle de familles, d'étudiants, de retraités qui doivent choisir entre payer leurs factures ou manger. Face à cette urgence, la réponse publique repose largement sur la solidarité caritative. Restos du cœur, secours populaire, banques alimentaires redistribuent les surplus de l'agro-industrie. Un système vital, mais qui pose une question. Est-ce vraiment un droit quand on ne soit que ce que les autres n'ont pas voulu consommer. C'est là qu'une idée a émergé, celle de créer une sécurité sociale de l'alimentation. Le principe est simple, chaque citoyen perçoit 150 euros par mois pour acheter des produits de qualité dans des commerces agréés choisis collectivement. L'ambition est double, garantir évidemment à tous une alimentation digne, mais aussi réorienter notre modèle agricole. Des expérimentations locales sont déjà en cours, mais les interrogations restent nombreuses. Faut-il vraiment passer par un nouveau droit universel ou chercher plutôt à relever salaires et minima sociaux ? Surtout, comment financer ce dispositif estimé à 120 milliards d'euros par an ? Et qui décidera demain de ce que nous aurons le droit ou non de mettre dans nos assiettes ? La sécurité sociale alimentaire est-elle une utopie généreuse ou une nouvelle quête sociale? On en débat jusqu'à 12h45 avec nos invités et puis avec vous. Nous attendons vos messages sur l'application Radio France et vos notes vocales sur le WhatsApp de l'émission au 01 45 24 7000.
France Inter. Le débat de midi. Saskia Deville.
J'ai le plaisir d'accueillir en studio aujourd'hui, dans le studio de France Inter, Isabelle April. Vous êtes présidente du syndicat national de la restauration collective. Bonjour et bienvenue.
Bonjour.
Bonjour à vous, Bénédicte Bonzi. Vous êtes docteur en anthropologie sociale, chercheuse associée au LAIOS, le laboratoire d'anthropologie des institutions et des organisations sociales.
Bonjour.
Au téléphone avec nous également, Marguerite Cazeneuve. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste de la protection sociale et directrice déléguée de l'assurance maladie. Et dans le studio d'ICI Héros Montpellier qui vous accueille, bonjour Manuel Sevilla.
Bonjour, merci pour l'invitation.
Avec plaisir, vous êtes coordinateur de l'association Caisse Alimentaire Commune de Montpellier. Vous êtes tous les quatre avec nous dans ce studio pour évoquer cette question. Tous bien manger, est-ce une utopie ? Quelle est, avec les chiffres que je viens de donner dans cette introduction de l'émission et qui sont assez évocateurs, quelle est la meilleure façon peut-être, dans un premier temps, de pallier la précarité alimentaire en France, Bénédicte Bonzi ?
Ben, une des premières choses qu'il faut souligner, c'est qu'il faut cesser d'organiser ce qui conduit à une précarisation d'une partie de la population aujourd'hui en France. Et ça, c'est vraiment lié à des choix et politiques et économiques. Et en ce sens-là, la proposition de sécurité sociale de l'alimentation, elle n'arrive non pas comme un projet solutionniste, mais vraiment comme une proposition politique qui propose de mettre au travail la sortie du marché de l'alimentation pour, en effet, permettre que l'alimentation devienne un droit à part entière et qu'on vienne respecter en France aussi le droit à l'alimentation. Donc aujourd'hui, il y a aussi un travail qui est mené pour permettre au droit à l'alimentation de figurer dans la Constitution et qu'il devienne un droit opposable contre lequel on ne fera pas de notre mieux, mais pour lequel il faudra faire.
Qu'est-ce que vous voulez dire juste par cesser d'organiser la précarité ?
Aujourd'hui, quand on regarde comment s'organise par exemple l'aide alimentaire, on se rend compte que la pauvreté est utilisée et permet de mettre en place une forme de marché de la faim. On ne coupe pas le robinet du gaspillage alimentaire, au contraire, on étend la vie du produit en ouvrant en fait les poubelles et en organisant la distribution de ce qui hier était condamné à être jeté. Alors on nous dit, mais c'est encore consommable. Si c'est encore consommable, eh bien il aurait fallu
pourquoi
que ce
ça
soit
ne reste pas dans le commerce.
Consommable pour
et j'ai
tout
déjà
le monde.
Un commentaire, un premier message d'auditeur Jean-Marc qui nous écrit à ce sujet justement. Vous parlez d'imposer une alimentation quand la grande distribution se débarrasse de ses produits agrochimiques à la banque alimentaire avec déduction fiscale.
Voilà, donc ça c'est l'organisation d'un marché. On parle dans les conventions de dons, ce qui a été mis en place par la loi Garot. En réalité, moi en tant qu'anthropologue, si j'analyse disent ce qu'est un don. Le don, c'est l'inconnu de la contrepartie. Si je donne parce que je sais que je vais être défiscalisée, je sais à quelle hauteur je vais être défiscalisée, on n'est plus dans le don. On est dans le marché. Et c'est bien ça sur lequel il faut travailler, notamment quand les structures de l'aide alimentaire appellent à l'aide. Et elles, en fin de compte, elles font avec ce qui arrive parce qu'elles sont en ligne de front dans ces moments extrêmement violents. Et il faudrait faire en sorte qu'on puisse leur donner les moyens de leur action. Aujourd'hui, les structures de l'aide alimentaire doivent bricoler et elles manquent considérablement de denrées de qualité.
Isabelle April, quelle est la meilleure façon de pallier à la précarité alimentaire en France ?
Alors, il y a beaucoup d'initiatives qui sont prises et qui sont très vertueuses, mais merci de me donner la possibilité de mettre en avant un modèle extrêmement vertueux qui existe en France au bénéfice de tous les Français, qui est la restauration collective. C'est quand même aujourd'hui un modèle qui permet au plus grand nombre d'avoir accès à une alimentation saine, équilibrée, à moindre coût. On parle quand même d'un repas sur deux consommé dans la restauration collective, donc hors domicile. Quand on consomme pas chez soi, il y a un repas sur deux qui est consommé dans la restauration collective. On parle de 10 millions de repas par jour et on parle de 80 000 restaurants répartis partout en France. Donc au bénéfice des enfants à la crèche, des enfants à l'école, des adultes en entreprise, dans les hôpitaux et jusqu'aux maisons de retraite et parfois...
Donc on parle de cantine.
Alors on parle de restauration collective, donc de cantine. On parle beaucoup de cantine scolaire. Voilà, c'est quand même une organisation qui est l'illustration d'un moyen efficace de lutter contre la précarité alimentaire. On sait aujourd'hui qu'il y a un enfant sur cinq qui arrive à l'école avec le ventre vide. C'est souvent le seul repas consommé par les enfants à la cantine. Et on a vu la catastrophe au moment du Covid, quand la cantine a été fermée.
Ouais, les cas de scorbut qui ont explosé.
Tout à fait. Donc on voit bien que c'est un outil aujourd'hui efficace, alors qu'il nécessite d'être consolidé et peut-être sur lequel on peut s'appuyer pour mener des initiatives et élargir ces actions qui permettraient de lutter contre la précarité alimentaire de façon plus large. Mais voilà, on a quand même aujourd'hui un outil éprouvé, vertueux parce que très réglementé hein, en termes d'approvisionnement, en termes de mode de production des repas et en termes de distribution. C'est vraiment aujourd'hui...
Et de prix également.
Et de prix. Aujourd'hui, personne... alors, parmi les auditeurs, il y a sûrement beaucoup de parents qui viennent d'inscrire leurs enfants à la cantine scolaire ou qui vont le faire dans quelques jours. Aujourd'hui, il n'y a pas un parent qui paye la réalité du prix d'un repas servi à l'école. C'est vraiment un système qui est porté par les finances publiques. Alors, quand on parle de restauration scolaire, on parle des maires, des collectivités locales, mais de la même façon en entreprise, c'est les entreprises pour les salariés qui financent une partie de ce coût. Donc, on a déjà un système qui est une aide pour permettre l'accès au plus grand nombre, à moindre coût, à une alimentation saine et équilibrée.
Marguerite Cazeneuve, je reviens à ma question de départ pour avoir votre éclairage sur la question, sur cette façon, comment pallier à cette précarité alimentaire ?
Alors, du point de vue du système de protection sociale, j'allais dire au sens large, il y a un double enjeu. Effectivement, lutter contre la précarité alimentaire et puis plus généralement, améliorer l'accès de tous à une alimentation saine. L'assurance maladie, elle vient de sortir un rapport où elle s'engage très fortement en faveur d'une alimentation plus saine pour plein de raisons que l'on connaît en termes de santé publique.
C'est-à-dire
75% des enfants de entre 4 et 6 ans qui consomment plus de sucre qu'ils ne devraient en raison des produits ultra transformés, du sucre ajouté. On a 46% des Français qui sont en situation de surpoids, 17% en situation d'obésité. Et donc, elle fait un certain nombre de recommandations qui sont des recommandations, j'allais dire, macro et complémentaires à ce qui vient d'être dit, à savoir rendre le Nutri-Score obligatoire, surtaxer le sucre ajouté, moduler les taux de TVA en fonction du caractère sain ou pas sain des produits alimentaires. Donc, on a effectivement un intérêt pour la protection sociale dans son ensemble, la branche maladie, la branche vieillesse, la branche autonomie, d'avoir un engagement massif, citoyen, politique, en faveur d'une alimentation plus saine et de l'accès à une alimentation plus saine.
Manuel Sevilla, vous êtes sur le terrain, je rappelle, hein, vous êtes coordinateur de l'association Caisse Alimentaire Commune de Montpellier. Vous avez lancé cette initiative il y a maintenant 3-4 ans, je pense qu'elle a été mise en place exactement en 2023. Comment est-ce que vous avez démarré? Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer?
Ouais, c'est ça, du coup la Caisse elle a démarré vraiment en février 2023. L'idée, c'était de se dire, pendant cette période un peu Covid, comment est-ce qu'on remet les citoyens au cœur des décisions qui concernent leur alimentation. C'était un peu ça le point de départ. Et du coup, on a fait les rencontres avec les théories de la sécurité sociale de l'alimentation. Et donc, du coup, on s'est appuyé sur les trois piliers de la SSA. Je l'ai dit un peu rapidement, hein, qu'on sache de quoi on parle. Du coup, c'est l'universalité, en fait. C'est un programme qui est fait pour vraiment tout le monde, quels que soient les revenus. C'est tout ça, c'est ça qui est important. On peut dépenser son argent dans des endroits qui sont conventionnés. C'est-à-dire que, du coup, c'est des comités citoyens, enfin, les citoyens qui décident dans quels endroits on peut dépenser le budget.
Donc, dans quel magasin, chez quel commerçant?
C'est ça. On pourra peut-être y revenir un peu plus loin sur le conventionnement, parce que c'est vraiment un outil de démocratie alimentaire pour nous. Et le troisième pilier, vraiment, c'est la cotisation, quoi. Donc, chacun cotise en fonction de ses moyens pour recevoir une allocation. Du coup, chez nous, c'est la monnaie alimentaire, qui permet d'acheter des produits de qualité dans des endroits qui sont conventionnés.
Et comment s'assurer que cet argent perçu, parce qu'on parle théoriquement de 150 euros par personne, le même revenu pour tous, ça on va en parler évidemment, comment s'assurer que cet argent soit correctement dirigé vers ces commerces conventionnés que vous évoquez?
Ouais, alors du coup nous c'est un peu particulier à Montpellier. C'est pas en euros qu'on distribue les allocations, elles sont en monnaie alimentaire, la mona. Et chez nous la mona, l'allocation en mona, elle est différenciée en fonction de la taille du foyer. Donc ça va de 100 mona pour un foyer d'une personne à 220 mona pour des foyers de 4 personnes et plus. C'est une décision qui a été prise en comité citoyen du coup l'année dernière pour justement être au plus près des réalités des besoins des ménages. Et du coup c'est grâce à cette monnaie qu'on peut payer que dans des lieux d'alimentation. Du coup, on peut payer vraiment que à manger et des boissons, en dehors de l'alcool.
Alors, on va continuer à parler de cette sécurité sociale alimentaire sur France Inter dans le débat de midi. Juste après, une pause musicale ici avec ce titre « Démounage de Seliawa » à midi 16 sur France Inter.
quand nous c'était mon hasard. Tout ça y est offert, pas oublié. Tout ça y est au point, pas oublié. Tout ça y est aussi, pas oublié.
Célia Wa, ici avec ce titre Démounage à midi 19 sur France Inter.
France Inter. Le débat de midi.
Et nous débattons ce midi autour de cette question, de cette idée. Faut-il une sécurité sociale alimentaire pour tous? En compagnie de nos invités, Isabelle April, présidente du syndicat national de la restauration collective, Bénédicte Bonzi, docteur en anthropologie sociale, la chercheuse associée au laboratoire d'anthropologie des institutions et des organisations sociales. Au téléphone avec nous, Marguerite Cazeneuve, spécialiste de la protection sociale et directrice déléguée de l'assurance maladie. Et dans le studio d'ici Héros Montpellier, Manuel Sevilla, coordinateur de l'association Caisse Alimentaire Commune de Montpellier. Alors, pour un petit rappel, hein, une sécurité sociale alimentaire, on donnerait 150 euros à chaque citoyen pour qu'il puisse dépenser dans des commerces choisis pour s'alimenter en quelque sorte. Il participerait à ce système en fonction de ses revenus. J'ai un message ici de notre auditrice Huguette qui nous écrit « Je suis contre une sécurité sociale alimentaire car nous constatons où nous emmener la carte vitale, une gabegie de consommation du médicament. Il vaut mieux passer par des structures contrôlées. De nombreuses personnes n'ont pas de quoi manger mais ont un téléphone. » Peut-être une réaction. Manuel Sevilla, vous qui êtes sur le terrain.
C'est une drôle de question, parce que du coup, qu'est-ce qu'on ferait finalement sans la carte vitale? Je veux dire, nous en plus, ce sur quoi on milite, c'est justement la sécurité sociale de 45 en fait. C'est comme c'est les travailleurs qui décident finalement des orientations de la caisse. C'est exactement ce qu'on essaie de faire nous ici à Montpellier. C'est 61 personnes issues de l'expérimentation qui pilotent réellement les décisions politiques qui ont lieu à la caisse. Donc c'est eux qui conventionnent, c'est eux qui fixent le montant des allocations. Nous on a fait le choix d'avoir une cotisation qui est libre et autodéterminée. Donc c'est vraiment les gens qui décident à quelle hauteur ils cotisent. Et voilà, on avance chemin faisant. Et je pense que c'est plutôt un mythe, l'idée de l'abus, en fait, dans notre société, maintenant.
Est-ce que ce serait possible, Marguerite Cazeneuve, d'ajouter une branche supplémentaire à la sécurité sociale?
Alors c'est là où c'est intéressant, parce qu'effectivement, le mot qui a été pris, la marque qui a été prise, c'est celle de la sécurité sociale. Donc là, d'un point de vue un petit peu théorique, c'est peut-être là qu'il y a un débat qui peut s'ouvrir. C'est vrai que la sécurité sociale de 45, telle qu'elle a été évoquée, il y a certains de ses principes dans le cadre de la sécurité sociale alimentaire qui sont respectés, notamment le principe d'universalité, le principe de cotisation. Mais c'est vrai qu'il faut avoir conscience que la sécurité sociale aujourd'hui, la cotisation, elle est obligatoire. En fait, on ne vous demande pas votre avis quand vous cotisez à l'assurance maladie, quand vous cotisez à l'assurance vieillesse, etc. Et donc, c'est une cotisation qui est obligatoire, qui a, selon un principe qui est de contribuer selon ses moyens et de recevoir selon ses besoins, mais c'est une cotisation qui est obligatoire. Pourquoi? C'est pour qu'il n'y ait pas d'échappement, notamment des foyers les plus aisés, sur un système de mutualisation des risques uniquement entre personnes qui présentent un faible risque. Donc la question est de savoir si ce modèle il peut marcher sans être obligatoire, c'est la première question. Et la deuxième question qui se pose, c'est que les cotisations à la sécurité sociale, elles sont obligatoires, mais finalement il y a un consentement à ce prélèvement obligatoire. Les gens manifestent pas parce que ils cotisent à l'assurance maladie. Pourquoi? Parce que le principe de la sécurité sociale, c'est de protéger contre des risques, le risque de la maladie, le risque de la vieillesse, etc. Et donc chacun se sent concerné et donc est prêt, j'allais dire, à mettre au pot, puisque ce risque peut
survenir. En fonction de ses moyens.
En fonction de ses moyens, évidemment. On contribue toujours selon ses moyens et on reçoit toujours selon ses besoins. Mais au fond, c'est un risque contre lequel on veut tous être assurés, si vous voulez, d'une certaine manière, la maladie. Et c'est là où c'est un peu différent dans le cadre de la précarité alimentaire. C'est que ce n'est pas un risque qui est vu par tous comme étant un risque avec une chance forte de survenue. Et donc, c'est là où je pense que le terme de sécurité sociale alimentaire, moi, je l'aime bien, puisque ça permet d'expliquer un certain nombre de principes du système. Mais la réalité du modèle, s'il devait être généralisé, c'est plus un modèle de caisse commune alimentaire, c'est-à-dire où on a une mutualisation de l'achat alimentaire avec un système qui est favorable à la fois aux agriculteurs et à la santé publique, sans que ce soit un système nécessairement obligatoire, avec un système de de redistribution dans lesquels on aurait certains foyers qui ne comprendraient pas pourquoi il faut qu'ils cotisent 150 pour à la fin avoir un panier alimentaire de...
Ah, ils ne cotisent pas 150, hein. Ils reçoivent 150 et ils cotisent en fonction de leurs moyens. Une réaction, Bénédicte Monzi ?
Il y en aurait beaucoup. Déjà, se rappeler que la cotisation telle que pensée en 45, c'est du salaire socialisé et à cette époque-là, ça représente beaucoup sur le salaire, enfin sur l'argent collectif. Et du coup, c'est une somme d'argent dont on va décider l'usage en commun. Et on va décider de construire des hôpitaux et on a bénéficié et on bénéficie encore aujourd'hui, en fait, de toute cette richesse et de cette volonté dans une période qui était difficile où on a imaginé, en fait, et c'était administré par des personnes concernées, le fonctionnement de la sécurité sociale. Moi, il me semble que c'est très intéressant de voir la manière dont les différents collectifs un peu partout en France se sont appropriés ce sujet, parce qu'il s'agit d'une reconquête aussi de la sécurité sociale dans son caractère primaire, c'est-à-dire
un universel.
Oui, et surtout d'être géré par les personnes concernées et non pas d'être délégué à des personnes qui auraient des intérêts économiques, ce qui est le cas aujourd'hui de la Sécu, et c'est pour ça, si on fait plusieurs raccourcis, que ça va mal. Après, moi, je voulais aussi réagir sur le message et notamment sur la question du téléphone portable. Mais qu'est-ce qu'on ferait aujourd'hui sans téléphone ? Et on se rend compte justement à quel point c'est important aujourd'hui de cesser tout un tas de formes d'injustice, notamment l'injustice alimentaire, parce qu'on vient nourrir le fait qu'on serait coupable de pauvreté. On n'est pas coupable de pauvreté, et quand on est en situation de précarité, on a besoin d'un téléphone pour toutes les démarches administratives, donc c'est quelque chose de vital dans bien des cas. Par contre, là où on est responsable, c'est quand on ne fait rien contre cette pauvreté. Et donc, cette idée aussi de continuer ou de laisser le choix, ou de laisser les choses aller comme elles sont en train d'aller aujourd'hui en France, sans transformer le modèle économique et sans aller plus loin sur l'exigence du droit à l'alimentation et la reconquête de la sécurité sociale, là, ça fait peser des risques énormes de manière volontaire à tout un tas de personnes. Et je pense que c'est ça aussi qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on doit reconquérir des droits, que la sécurité sociale, aujourd'hui, elle nous permet d'être en bonne santé et que en effet en 45 la question de l'alimentation elle avait été pensée. Et donc ouvrir cette branche là c'est pas du tout une ineptie, c'est aussi venir se prévenir d'un nouveau risque qui est apparu parce que l'alimentation est rentrée dans le marché et qu'il y a énormément de spéculation et donc beaucoup d'injustice alimentaire.
Alors, il y a beaucoup de questionnements ou peut-être de critiques par rapport à cette sécurité sociale alimentaire, notamment son universalité. Est-ce que cela a du sens de s'adresser à tous les citoyens quand une partie d'entre eux n'en ont pas un besoin vital ? Est-ce qu'il faut verser autant pour un enfant que pour un adulte ? Est-ce qu'il faut renforcer cette sécurité sociale alimentaire dans les territoires d'outre-mer où l'alimentation est plus chère qu'en métropole ? C'est beaucoup de questions sur le financement, évidemment aussi, de cette sécurité sociale alimentaire. Je vois que vous souhaitez intervenir, Isabelle April.
Oui, je voulais juste partager un chiffre qui est très intéressant et à la fois hallucinant, qui est l'impact d'une mauvaise alimentation sur le budget et les dépenses publiques en France. C'est un chiffre qui émane de la FAO, qui est un institut de l'ONU pour l'alimentation et l'agriculture.
Oui, je pense qu'on passe
nous dit
225 milliards d'euros.
Voilà, que l'impact d'une mauvaise alimentation sur les dépenses publiques en France, c'est 125 milliards d'euros. Ça remet quand même un peu les perspectives dans le bon ordre. C'est un élément majeur qui est nouveau. Enfin, il y a longtemps qu'on se dit que la mauvaise alimentation a un impact sur la santé. Aujourd'hui, on a des chiffres à mettre derrière. Et peut-être que cet élément-là va permettre d'évoluer dans la réflexion.
Et quand on parle justement du financement de cette sécurité sociale alimentaire, on parle de un montant de 120,6 milliards d'euros par an. Donc au final, est-ce que ça ne se recoupe pas en quelque sorte ?
En tout cas, moi, la conviction qu'on a, c'est qu'il faut arrêter de parler de dépenses, mais bien d'investissement quand on parle d'accès à l'alimentation. Et on voit l'intérêt même économique qu'on peut avoir en finançant une meilleure alimentation. On va pouvoir baisser les dépenses liées à la mauvaise alimentation.
Alors, je reviens juste sur ma question précédente au sujet de cette universalité de la sécurité sociale alimentaire. Manuel Sevilla, vous, tout le monde a accès à votre caisse alimentaire commune ou est-ce qu'il y a une sélection ?
Alors pour l'instant, il y a une sélection. Du coup, on ne peut pas vraiment prendre tous les habitants de la métropole. Cependant, on a fait attention à ce que du coup, les aujourd'hui, les 600 foyers qui font partie de l'expérimentation soient représentatifs de la métropole de Montpellier. Et du coup, comme ça, on essaie d'essayer de montrer qu'on peut répliquer ailleurs ou monter en échelle sur ces questions-là. Nous, on a une démarche plutôt de recherche-action ici à Montpellier. C'est-à-dire qu'on observe, on a la Surunesco, le CIRAD, l'INRAE qui sont avec nous et qui regardent un peu quels effets produit la caisse à la fois sur les foyers et à la fois sur le territoire, le monde agricole. Et cette question de l'université, elle est un peu essentielle en fait. Manger, c'est vraiment l'affaire de tous. Et c'est justement du côté producteur qu'on se dit, on a beaucoup de producteurs bio qui nous disent, ben en fait, j'en ai toujours aux mêmes personnes grâce à la caisse. En fait, finalement, je finis par rencontrer d'autres personnes, des personnes qui n'avaient pas les moyens, qui finissent par acheter des légumes sur les marchés. Et en vrai, c'est un peu cette idée-là, c'est se réapproprier en tant que citoyen. Et pour le coup, on est tous égaux face à l'alimentation, se réapproprier un pouvoir politique.
Marguerite Cazeneuve, je pense que vous êtes aussi en faveur de cette universalité afin d'éviter notamment aussi une certaine stigmatisation des personnes en situation de précarité alimentaire.
Oui, absolument. L'universalité, c'est essentiel. Et le fait d'avoir un modèle, le modèle qui est présenté, que je considère être un modèle qui est un peu intermédiaire entre la sécurité sociale obligatoire pour tous et le système de l'aide alimentaire, ce système intermédiaire universel ouvert à tous, il est hyper intéressant puisque effectivement, il fait en sorte de pas avoir de stigmatisation des personnes qui ont recours à l'aide alimentaire. À partir du moment où il est ouvert à tous, ça veut dire que tout à chacun peut y aller. Et ça permet de créer un collectif beaucoup plus large et de pas avoir ce débat qui revient sans cesse, d'avoir des aides qui sont fléchées vers les personnes les plus précaires. Donc ce qu'il faut savoir,
c'est qu'aujourd'hui... Et puis des préjugés aussi en disant, par exemple, que les personnes démunies ne savent pas manger convenablement.
Exactement, et donc c'est là où l'universalité du modèle, en tout cas ce qui est proposé, mais je trouve ça très intéressant, parce que si vous réservez d'une certaine manière l'aide alimentaire à certaines personnes, vous finissez par vous poser la question de savoir, mais finalement, pourquoi est-ce qu'on donne pas des chèques alimentaires plutôt que de donner de l'argent? Et on voit bien, en ce moment, c'est le même débat sur l'allocation de rentrée scolaire. Et on entend des gens qui disent, mais pourquoi donner une allocation de rentrée scolaire? Et pourquoi ne pas donner des bons pour l'achat de fournitures scolaires? Mais en fait, ce discours-là, c'est un discours qui vise à, qui est très stigmatisant, qui dit en fait que les personnes en situation de précarité, elles font des mauvais choix par essence. Et donc, le fait d'avoir quelque chose qui soit beaucoup plus ouvert et qui soit par ailleurs intéressant pour un citoyen qui n'est pas nécessairement face à un risque de précarité alimentaire, mais qui a envie de correctement s'alimenter, on ouvre totalement le spectre et donc on déstigmatise. Et donc, c'est là où on arrive sur la question du modèle économique. C'est pour ça que je pense que ce n'est pas exactement de la sécurité sociale, puisque un modèle de sécurité sociale, il tient financièrement. Vous avez autant de cotisations que de dépenses. Je pense que ce n'est pas possible dans le modèle qui est présenté ici. En revanche, ce serait très intéressant que l'État, les collectivités locales, etc., plutôt que d'investir dans l'aide alimentaire, oriente ses financements plutôt vers ces modèles intermédiaires qui sont universels, ouverts à tous.
Et je partage ce message de notre auditrice Guylaine qui nous écrit ceci. J'ai tous les mois 992 €, dont 550 € de loyer, 75 € par semaine pour manger. Eh bien, je mange sainement, un peu bio, local, de saison, poisson, viande, car l'alimentation fait partie de mon hygiène de vie imposée par une affection longue durée et maladie mentale. On devrait avoir une aide comme les chèques restaurants valables que sur certains produits, ajoute-t-elle, peut-être uniquement sur les produits score A et B. Donc voilà encore une autre position ici de notre auditrice. On va faire, continuer ce débat dans quelques instants. Il est 12h33. Je vous propose ici d'écouter ce titre, Down to be wrong de Haïm. Down to be wrong. I left you the keys, I left on the lights. I locked myself out of the house. I'm on the next flight, you can't talk me out of it. See you. Nous sommes toujours dans le débat de midi sur France Inter à 12h35. C'était Down to Be Wrong de Haïm.
Le débat de midi, Saskia Deville sur France Inter.
Nous débattons toujours en compagnie de nos invités au sujet de cette potentielle sécurité sociale alimentaire et beaucoup de réactions d'auditeurs, d'auditrices. Ici Grégoire qui nous écrit, et il n'est pas le seul, hein. J'ai peur que l'ajout de dispositifs pour pallier à un problème plus profond, quand allons-nous vraiment revaloriser les salaires en France et arrêter cet appauvrissement continu qui amène à concevoir de plus en plus de dispositifs pour pallier à... notamment, il fait référence au Resto du Cœur. C'est vrai, ça plutôt qu'un droit universel. Est-ce qu'on peut imaginer une politique publique pour augmenter les bas salaires, les minima sociaux existants, Bénédicte Bonzi?
En tout cas, c'est absolument pas incompatible. Et là, ce qui est important de comprendre, c'est que quand on parle de la mise en œuvre d'une sécurité sociale de l'alimentation, les personnes qui ont des hauts revenus vont cotiser beaucoup plus que ce qu'elles vont recevoir. Et c'est cette mise en place de solidarité qui est intéressante. C'est, pour moi, je pense que c'est aussi une fierté de pouvoir décider collectivement que cet argent, on va l'investir pour transformer nos paysages alimentaires, pour permettre aux millions de paysans qu'on a besoin de réinstaller dans des champs, d'avoir la possibilité et des conditions agréables pour le faire. On va leur garantir en fait que ces produits-là, ils vont être mangés, consommés par la population, qu'on va pouvoir nourrir ses voisins. C'est toute cette transformation qu'il faut avoir en tête. Évidemment.
Et ça, c'est intéressant parce qu'il va falloir, du coup, imaginons que cette sécurité sociale alimentaire se mette en place, effectivement, comme il y a cet objectif de, comment dire, transformer le modèle productif agricole actuel, il va falloir aussi produire en beaucoup plus grande quantité. Il va donc falloir peut-être plus d'agriculteurs, rendre désirable ce métier extrêmement difficile aussi, qui souffre énormément.
Il va falloir repenser notre système alimentaire à tous ces endroits. Donc de la production à la transformation à la vente. Et du coup, ça permet aussi de redonner des rôles très très différents à l'ensemble des personnes. Ce qu'on vit au sein des expérimentations et ce qui est au cœur de la sécurité sociale de l'alimentation aujourd'hui, c'est l'esprit de démocratie et de démocratie alimentaire. C'est-à-dire que on laisse les personnes décider, on leur fait confiance, parce que elles peuvent choisir en connaissance de cause. Donc, avant de mettre en place une caisse et de venir conventionner des magasins, les personnes, en fait, participent à une sorte de formation, beaucoup inspirée d'éducation populaire, pour pouvoir choisir collectivement cette alimentation, avoir connaissance de comment c'est transformé, produit, et du coup, s'interroger sur qu'est-ce qu'on doit changer dans le système alimentaire. Aujourd'hui, le système alimentaire, il coûte trop cher, parce qu'au lieu de nourrir des estomacs, il nourrit des capitaux. Et que du coup, c'est bien ça qu'il faut changer. Il ne faut pas qu'il y ait autant d'actionnaires qui puissent vivre sur le dos de tout un tas de personnes qui travaillent énormément. Et il faut permettre à ces personnes que leur travail soit reconnu. Et évidemment, la hausse des salaires, elle va de fait avec l'idée d'avoir une part du salaire socialisé et de penser à un autre système et plus de justice alimentaire.
Et alors, on a une autre question aussi qui émerge. On va avoir un commentaire ici, un vocal d'une auditrice dans un instant. Mais juste avant ça, il est là, on l'écoute. Et c'est Sylviane qui nous interpelle.
Quand on voit les attaques que subit la sécurité sociale au niveau de la maladie, que certaines personnes ne peuvent pas soigner correctement, et vous parlez de mettre en place une sécurité sociale pour l'alimentaire. Oui, pourquoi pas, dans un monde de bisounours. Mais aujourd'hui, dans le monde capitaliste, vous pensez vraiment que ça peut être la réalité ?
Une réaction. Je vous ai en ligne, hein. Manuel Sevilla et Marguerite Cazeneuve. L'un de vous deux souhaite réagir au message ici de Sylviane.
Eh ben, je veux bien.
Manuel Sevilla, on vous écoute.
Ouais. Effectivement, en fait, nous, maintenant, on commence à parler de commun alimentaire, en fait. Comme c'est quelque chose qui nous concerne tous, c'est comment est-ce qu'on se réorganise en tant que citoyen, mais pas que, en fait. Il y a une solidarité entre les mangeurs, et c'est ça qu'avec la caisse, on arrive à produire. Mais il faut qu'on ait une solidarité avec les gens qui nous nourrissent, et il faut qu'on ait une solidarité entre les territoires. Chaque territoire n'a pas les mêmes ressources. Ici, à Montpellier, sur une métropole d'un demi-million d'habitants, on n'a pas les ressources dans le Languedoc pour nourrir l'ensemble de la métropole. Donc, c'est bien des questions qu'on doit se poser en commun. Et pour revenir sur la question de votre auditeur, juste avant, il y a les copains de Secours catholique, Réseau Civam, Solidarité Paysan et la Fédération française des diabétiques qui a sorti l'année dernière un rapport qui s'appelle l'injuste prix de notre alimentation et qui dit qu'en fait l'argent est déjà là. C'est juste qu'on demande en tant que citoyen à avoir un regard dessus et à pouvoir le réorienter autrement, en fait, soutenir un peu plus. Et aujourd'hui, à Montpellier, sur notre territoire, maintenant la caisse elle s'inscrit dans un projet qui est un peu plus large qui s'appelle TerraSol pour Terre Agricole Alimentaire et Solidaire qui regroupe 16 acteurs, la collectivité, donc il y a la ville de Montpellier, la métropole, des entreprises du secteur privé et des entreprises de l'économie sociale et solidaire. Et l'idée, c'est de recréer des synergies sur des territoires. En fait, manger, c'est justement l'affaire de tous. Comment est-ce qu'on recrée des espaces entre des maisons de l'alimentation, la caisse, des camions pédagogiques qui vont dans les écoles? Comment est-ce qu'on se réapproprie en fait ces questions-là et qu'on décide ensemble sur quel système on veut pour nos enfants, quoi.
Marguerite Cazeneuve.
Oui, peut-être pour répondre à l'auditrice, je crois que cette réaction elle est très intéressante puisqu'effectivement, on le sait, la sécurité sociale, elle ne va pas bien d'un point de vue financier et notamment l'assurance maladie qui connaît un très fort déficit et qui va probablement voir son déficit se creuser dans les années qui viennent du fait du vieillissement de la population, de l'explosion des maladies chroniques. Et donc, c'est bien ce que l'assurance maladie préconise, c'est de se dire en fait, si on devient tous malades et malades chroniques, de toute façon, notre système ne fonctionnera pas. Et donc, il faut repenser la totalité du système et mettre beaucoup plus d'argent sur la prévention pour éviter que les gens soient malades, pour retarder l'apparition des maladies, pour éviter qu'elles ne s'aggravent. Et donc, investir sur la prévention, investir sur l'alimentation, c'est un bon investissement qui, in fine, permet aussi à la sécurité sociale de faire des économies. Et donc, la sécurité sociale de l'alimentation, pour moi, c'est plus un outil, comme d'autres outils de solidarité au niveau local, qui peuvent aider à améliorer l'accès à une alimentation saine, durable, qui est essentielle in fine aussi pour la performance financière de la sécurité sociale, parce que la sécurité sociale, elle a besoin que les gens aient une espérance de vie en bonne santé qui continue d'augmenter pour fonctionner.
Il faut aussi passer par une éducation nutritionnelle, Isabelle April.
Oui, tout à fait. On parle beaucoup d'approvisionnement et c'est majeur, mais il y a aussi un sujet d'éducation nutritionnelle, notamment au sein des écoles. Nous, on milite pour et on est des acteurs majeurs de l'éducation nutritionnelle. On est le premier employeur de diététiciens et diététiciennes. C'est un verrou à vraiment sécuriser. Il faut qu'on redonne du sens et des moyens pour tout un chacun, pour que ces produits qui vont être mis à disposition. Mais je voudrais juste revenir sur le sujet du modèle et peut-être qu'effectivement le terme de sécurité sociale qui est très
alimentaire
peut être un peu heurté, mais je voudrais juste rappeler que encore une fois il y a un modèle de la restauration collective et je vais faire un focus sur la restauration scolaire qui est un modèle d'universalité où très concrètement au sein de chaque collectivité les parents parents les plus riches payent pour les plus pauvres. Et on a déjà ce modèle qui existe.
Fonctionnement, en quelque sorte.
Et qu'il faut sauvegarder déjà avant de... Toutes les expérimentations sont bonnes à prendre, mais il y a quand même un modèle à sécuriser. Aujourd'hui, on est en pleine discussion budgétaire demain, mais l'année dernière déjà, on entendait les maires, au congrès des maires, dire « Mais qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais devoir prioriser la police municipale ou la restauration scolaire ?» Sachons quand même tous que la restauration scolaire n'est pas un service obligatoire. C'est-à-dire que demain...
Ça pourrait le devenir ?
Alors, il faudrait que ça le devienne, mais en tout cas, ça ne l'est pas. Et donc, demain, un maire qui n'a plus les moyens de financer la restauration scolaire pourrait fermer la cantine. Donc, l'idée quand même, c'est d'avoir conscience qu'il y a des modèles qui existent, qui sont des réponses qu'on apporte depuis longtemps à ces sujets de précarité alimentaire et d'accès pour le plus grand nombre à une alimentation saine et équilibrée à moindre coût, mais qu'il faut sauvegarder ces modèles-là, déjà.
On va passer à une dernière question, car le débat de midi touche à sa fin. Je veux un mot de chacun d'entre vous à cette question. Faut-il inscrire le droit à l'alimentation dans la Constitution ? Vous l'avez évoqué.
Oui, évidemment, c'est une urgence, et puis c'est l'ensemble des droits, en fait. La perte d'un droit, c'est la perte des droits en cascade, disait le fondateur d'ATD Quart-Monde. Et pour rebondir sur...
J'avais dit un mot.
Ouais, mais c'était quand même très important ce qui a été dit sur le fait de pas pouvoir se soigner. C'est pas normal de pas pouvoir se soigner dans un pays
riche. Et ce n'est pas normal.
Et c'est pas normal de pas pouvoir manger. Et du coup, c'est faux de dire que ça ne doit pas coûter d'argent. En fait, c'est
Bénédicte
un choix Bonzi, de société.
Vous avez eu les derniers mots, mais je pense que voilà, nous avons compris chacun de vos points de vue. Merci à vous quatre, Isabelle April, Bénédicte Bonzi, Marguerite Cazeneuve. Merci aussi à Ici Héros Montpellier d'avoir accueilli Manuel Sevilla pour ce débat de midi. Merci à toute mon équipe, Aurore Mansip, Louise Morfois à la programmation. Nos stagiaires Anaë Balista et Ryan Saïbi, notre documentaliste Corinne Chauvel, une programmation musicale de Djoubaka. Et cette émission était réalisée par Antoine Larcher avec à la technique Frédéric Kiffer.